France Inter.
Bonjour à tous, c'est le nouvel Eldorado des fournisseurs d'électricité, les fermes agrivoltaïques qui combinent panneaux solaires et exploitation agricole. Sauf que derrière cette belle vitrine se posent beaucoup de questions. Bonjour Marjolaine Corre et Sylvain Lapoix.
Bonjour.
Alors vous avez tous les deux enquêté sur cette course au contrat photovoltaïque qui est loin de profiter à tout le monde. Et puis pour tenter de comprendre les origines profondes de la crise agricole, nous recevons Inès Leroy, bonjour.
Bonjour.
Alors avec le dessinateur Pierre Vanov, vous publiez une enquête en bande dessinée, Champ de bataille, sur l'histoire méconnue et édifiante du remembrement, le regroupement à marche forcée des petites exploitations agricoles.
Secret d'info, Benoît Colomba sur France Inter.
Alors ici on est sur la Combe. La Combe, c'est des terres qui viennent d'être vendues à des prix astronomiques, tout ça pour un projet de photovoltaïque au sol. Donc ça empêche tout le monde de soit de s'agrandir, soit de s'installer. Et on s'aperçoit que tous ces gros investisseurs mettent une pression énorme.
Voilà, c'était le 21 octobre dernier, une manifestation à Adrié, dans le département de la Vienne. Celui que vous venez d'entendre, c'est un agriculteur en colère, Éric Duputier, également président de l'association Les Prés Survoltés, qui s'oppose à un projet d'installation de panneaux solaires sur une exploitation agricole. Des projets qui sont de plus en plus fréquents, mais qui posent également beaucoup de questions. On va le voir, mais d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, Sylvain Lapoix, explique-nous ce qu'est exactement l'agrivoltaïsme.
Jusqu'à présent, on connaissait les panneaux solaires posés sur les bâtiments ou au sol. Maintenant, il devient possible d'en poser sur les cultures ou les élevages. Et c'est ça qu'on appelle l'agrivoltaïsme, quand on mêle production d'énergie et production agricole. Et l'inventeur de ce concept, c'est Christian Duprat. Il est directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique.
L'agrivoltaïsme, c'est une manière intelligente de mieux utiliser la lumière du soleil. Quand on regarde ce que les cultures ou les pâtures utilisent de la proportion qu'elles utilisent de la lumière du soleil au cours de l'année, on se rend compte qu'elles n'en utilisent à peu près qu'un tiers et que donc les deux tiers de la lumière du soleil qui tombe dans les champs n'est pas utilisée pour la production agricole. Donc l'idée a été d'utiliser mieux cette lumière en la partageant entre la production d'énergie et la production agricole.
Et pour les promoteurs de cette technique, c'est donc une piste intéressante pour développer les énergies renouvelables en France.
Bon, mais c'est qui ces promoteurs ?
Alors, il y a de grands énergéticiens, c'est-à-dire Sonagri, qui appartient au groupe Eiffage, Total Energy, mais aussi une foule de petites start-up qui se lancent dans ce nouveau business. Et s'ils sont aussi nombreux, c'est parce que ça permet de produire beaucoup d'électricité avec peu de surface, comme l'explique à nouveau Christian Duprat.
L'agrivoltaïsme a un potentiel de production très important, tout simplement parce que la lumière du soleil est généreuse et qu'elle est répartie sur nos 25 millions d'hectares d'agriculture française et que là, on a la possibilité de faire beaucoup d'énergie. Le rêve de tous les électriciens, c'est de faire du panneau photovoltaïque sur les terres agricoles, parce que les terres agricoles sont en général plates. Pour eux, c'est le graal absolu, c'est-à-dire de faire de l'électricité pas chère, avec des effets d'échelle importants sur les terres agricoles. Le problème, la loi française interdit l'accès aux terres agricoles, sauf sous forme d'agrivoltaïsme.
Le graal absolu et donc l'agrivoltaïsme, ça ouvre grand la porte aux terres agricoles pour les énergéticiens.
Oui, parce que ça permet de poser beaucoup plus de panneaux solaires que sur des bâtiments. Sur le papier, c'est donc moins cher et plus rentable.
Sauf que pour ça, il faut quand même l'accord des agriculteurs. Comment ils sont démarchés ?
Pour comprendre comment ça se passe, j'ai rencontré Benoît Deschamps. Il est agriculteur en bio dans le sud de la Vienne, où il élève des moutons et cultive de quoi les nourrir sur 150 hectares. Et voilà comment ça s'est passé pour lui.
Alors moi, c'est un ami, tout simplement, au foot, qui m'a dit bah, « tu serais pas intéressé par une centrale photovoltaïque chez toi ?» Je dis « pour les éoliennes, personne ne m'a contacté. Oui, éventuellement, il faut voir. » Et en fait, ça s'est fait dans la semaine. Donc je me suis inscrit directement sur un site, la ferme solaire. Dans les semaines qui ont suivi, j'avais trois développeurs chez moi et puis qui m'expliquaient un petit peu comment ça allait se passer. J'ai eu l'impression en fait de passer un entretien d'embauche avec ces gens-là. Et j'ai tout de suite compris qu'ils voulaient savoir si réellement j'étais motivé à produire. Parce qu'en fait, ce que ces gens-là recherchent, c'est à tout prix des agriculteurs qui sont en activité.
Et finalement, alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, l'affaire s'est conclue en quelques semaines. Il a signé un contrat pour 55 hectares de panneaux, et ces panneaux sont surélevés pour que les moutons puissent paître en dessous.
Sauf que ça ne se passe pas toujours aussi bien.
Oui, écoutez ce qui est arrivé par exemple à Noéma Bellinger. Elle est éleveuse à Chassier, en Charente, et elle n'est pas du tout favorable à ce type de projet. Et elle l'a fait savoir. Malgré ça, voilà ce qu'elle a vécu.
On a commencé à recevoir énormément de coups de téléphone, jusqu'à 10-15 coups de téléphone par jour, des courriers nous sollicitant pour des rencontres, etc., dont un courrier où est ajoutée une photo du plan cadastral où nos terrains sont délimités, et ces 20 hectares, ils nous expliquent que ça les intéresse et qu'ils veulent absolument les récupérer, machin. Et depuis, c'est incessant. On a des véhicules qui viennent, qui tournent dans notre cour, etc. Donc on est absolument harcelés, voilà.
Et le cas de Noéma Bellinger n'est pas isolé. De nombreuses associations ont été créées en France pour lutter contre l'agrivoltaïsme ces derniers mois.
Et est-ce qu'ils sont si nombreux que ça, ces projets d'agrivoltaïsme de plus en plus contestés ?
Bah, en fait, c'est très difficile d'avoir une liste complète de tous les projets. Au cours de notre enquête, on nous a cité plusieurs fois le chiffre de 1 million d'hectares.
1 million d'hectares, mais là, de quoi on parle exactement ?
Là, on parle juste des projets qui sont en cours de négociation. Pour vous donner une idée, 1 million d'hectares, c'est la surface de la Gironde, le plus grand département de France métropolitaine.
Et ce que vous avez découvert, c'est que ce chiffre, effectivement impressionnant, il semble largement surdimensionné par rapport aux besoins.
Et oui, et celui qui nous le confirme, c'est même Antoine Nogier, le président de France Agrivoltaïsme, l'association professionnelle qui vise justement à promouvoir la filière agrivoltaïque.
Avec 200 000 hectares, la transition énergétique est saturée. Vous voyez que donc, s'il y a 1 million d'hectares, ça fait déjà beaucoup plus qu'il n'en faudra. Ce sont des milliers de projets, peut-être même des dizaines de milliers de projets qui sont en développement aujourd'hui. Il n'y a rien de plus tentant que l'espace agricole. Vous voyez qu'il est quasiment illimité. Il est fondamental d'évaluer la qualité des projets pour sanctionner tous les projets qui n'ont pas d'impact ni de sens.
Et dans les faits, la France vise plutôt 100 000 hectares de panneaux solaires à l'horizon 2050, donc 10 fois moins que le nombre de projets en cours. Ce qui montre bien qu'on est dans une course au contrat photovoltaïque, et cette course, elle attire des intermédiaires qui veulent profiter de la manne. Comme le constate Olivier Doger, il s'occupe du dossier énergie auprès du syndicat agricole majoritaire, la FNSEA.
C'est les commerciaux hein, qui ont repéré qu'il y avait une manne quelque part, donc ils vont faire signer les gens. Ils disent « moi je les fais signer », donc ce n'est pas des énergéticiens, c'est des gens qui sont allés dans les fermes en disant « voilà, si vous me mettez à disposition une promesse de bail sur telle et telle terre, on peut vous proposer un projet photovoltaïque avec des revenus ». Donc forcément, ça a marché. Et eux sont allés voir les développeurs et ont dit « ben voilà, nous on a 10 000, 20 000, 30 000 hectares signés, ça vaut tant, donc signé en bas de la page ».
Mais face à ce nouveau marché qui, on l'a compris, suscite pas mal de convoitises, et là je me tourne vers vous, Marjolaine Corr, est-ce qu'il y a un cadre légal qui pose des limites ?
Oui. Depuis mars 2023, la loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables est venue mettre un peu d'ordre dans tout cela, notamment en limitant le nombre de panneaux sur les surfaces cultivées. Parce que pour que l'agriculteur s'en sorte, il faut qu'il maintienne un certain niveau de production pour conserver sa marge. Et ça, c'est un difficile équilibre à trouver selon le chercheur Christian Duprat.
On ne peut pas avoir trop de panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire, si vous mettez autant de panneaux photovoltaïques sur les cultures que ce qu'on met habituellement au sol quand on fait une centrale classique, alors il n'y a plus assez de lumière pour les cultures et le rendement va baisser. Et la difficulté pour l'agriculteur, c'est qu'en France, si le rendement baisse, très rapidement, la culture peut devenir non rentable. Parce que les marges agricoles sont très faibles. Il y a des cultures, si vous passez de 100% du rendement à 80 ou 70% du rendement, ça ne vaut plus le coup de semer ou de les mettre en exploitation parce que le bénéfice à la fin, la marge, comme on dit, sera nulle.
Autrement dit, il est possible de mettre des panneaux sur des cultures ou des élevages, mais jusqu'à une certaine limite.
Et justement, la loi, elle fixe quelle limite ?
C'est là où il y a un problème. La loi permet des installations avec ce qu'on appelle des taux de couverture importants, c'est-à-dire avec beaucoup de panneaux photovoltaïques par hectare. Elle limite ce taux à 40%, c'est-à-dire à 4000 m² de panneaux par hectare pour les grandes installations. Et d'après Christian Duprat de l'Institut de recherche agronomique, l'INRAE, ça ne peut pas marcher.
Toutes nos études à l'INRAE montrent qu'au-delà de 20% de taux de couverture, nous avons des baisses de rendement significatives pour pratiquement toutes les cultures. Donc de ce point de vue-là, la réglementation n'a pas limité le taux de couverture des installations agrivoltaïques et elle demande donc aux agriculteurs de faire des miracles.
Donc ce qu'on comprend, c'est que le revenu provenant de l'agriculture risque mécaniquement de baisser, mais quel est le problème si d'un autre côté c'est compensé par les revenus provenant des panneaux photovoltaïques ?
Eh bien c'est que la loi ne permet pas ce type de compensation. Elle oblige les agriculteurs à garder le même niveau de production, quel que soit le nombre de panneaux installés, ce qui est une mission quasi impossible.
Mais alors pourquoi avoir autorisé l'installation d'autant de panneaux si les agriculteurs n'y trouvent pas forcément leur compte ?
Je vous avais dit que la loi avait été votée en mars 2023. Eh bien, le décret d'application de cette loi pour l'agrivoltaïsme est paru un an plus tard, tellement les négociations ont été difficiles. Il y avait d'un côté le ministre de l'Agriculture, à l'époque Marc Fesneau, et de l'autre Agnès Pannier-Runacher au portefeuille de l'énergie. Elsa Souchet est journaliste indépendante, elle a suivi le bras de fer entre les deux ministres pour les médias Contexte et Reporter.
Il y a eu des versions différentes du décret initial avant qu'il soit publié. Il y a eu même le ministère de l'Agriculture qui a proposé sa propre version. Mais la négociation a été menée par Agnès Pannier-Runacher au ministère de l'Énergie à l'époque. Et la particularité, c'était qu'il y a eu une diversité de points de vue qui ont été exprimés. Après, il y avait un rapport de force à l'époque qui n'était pas le même entre ministère de l'Agriculture et ministère de l'Énergie. Et même si l'agriculture est un domaine fort en France, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, avec un poids important du syndicat majoritaire, et bien c'est vrai que dans la négociation, c'est plutôt les énergéticiens qui ont tiré leur épingle du jeu.
Donc ce qu'on comprend, c'est que la priorité a plutôt été donnée au volet énergie. Mais qu'est-ce qui a fait pencher la balance ?
En fait, il y a deux facteurs. D'abord, Bercy veut maintenir le prix de l'électricité assez bas pour ne pas pénaliser l'économie. Et donc, l'agrivoltaïsme, c'est un bon moyen d'avoir de l'électricité moins chère. Et d'autre part, ça permet à la France de combler son retard en matière de production d'énergie renouvelable, comme l'explique à nouveau Elsa Souchet.
Il ne faut pas oublier que le ministère de l'Énergie était tenu par les objectifs renouvelables et que la France était en retard, voire condamnée par l'Union européenne. Et donc ça, ça crée un cadre contraint sur le sujet aussi, en haut lieu. Et puis, il ne faut pas le cacher, il y a une vraie volonté aujourd'hui de développer les énergies renouvelables parce que c'est un bon moyen de décarboner, en tout cas, au moins dans les chiffres, la production d'électricité, même si elle est faiblement carbonée en France. Et que des terres agricoles, c'est quand même beaucoup plus facile pour faire très rapidement beaucoup de volume et beaucoup de puissance par rapport à installer sur des toitures, par exemple.
Et du côté du ministère de l'Énergie, est-ce qu'on assume d'avoir fait ce choix, malgré le risque, on l'a vu, pour les agriculteurs ?
Oui, on a rencontré Agnès Pannier-Runacher et l'ancienne ministre de la Transition énergétique, désormais ministre de la Transition écologique, va même plus loin. Pour elle, cette loi qui fixe un taux de 40% de couverture pour les panneaux solaires, non seulement ne pénaliserait pas les agriculteurs, mais globalement, elle les renforcerait plutôt.
Il y a des projets qui sont couverts à 40% et qui augmentent singulièrement le rendement. Et puis évidemment, il y a des projets qui, avec un taux de couverture de cette nature, baissent leur rendement. Mais dans notamment les travaux de l'AFNOR, deux tiers des projets avaient des taux de couverture entre 35 et 40% et néanmoins étaient en augmentation de rendement.
Donc selon la ministre, les deux tiers des projets avec la couverture maximale de panneaux solaires verraient leur rendement sérieusement augmenter. Et pour affirmer ça, elle s'appuie sur des travaux de l'AFNOR. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors c'est un organisme de certification qui délivre des labels pour s'assurer que les normes sont respectées. Il existe un label très récent sur l'agrivoltaïsme. Je les ai donc contactés et voilà ce que Jérémy Mella, le responsable du label agrivoltaïsme, m'a répondu.
Les premiers projets labellisés sont arrivés en 2022. On a donc deux projets qui ont fait l'étape de mise en service. Donc on n'a pas encore de projet vraiment avec les résultats en exploitation.
Donc vous n'avez pas encore de retour sur l'efficacité ou l'apport de panneaux solaires sur une exploitation?
On n'a pas encore les résultats des suivis agronomiques sur des projets labellisés, non. Pour le moment, on n'a pas un rôle identifié de collecte de données et de transmission de données. Ce n'est pas le rôle là de la certification. Après, il y a des choses qui se mettent en place. Mais l'objectif premier du label, ce n'est pas forcément de collecter de la donnée pour la transmettre et la rendre publique ensuite.
Ah mais alors, si ces travaux n'ont en fait jamais existé, selon l'AFNOR, qu'est-ce qu'elle vous répond, Agnès Pannier-Runacher ?
Eh bien, je l'ai relancé pour tenter de comprendre d'où sortaient ces chiffres et je n'ai obtenu aucune réponse.
France Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
Alors on a vu que l'agrivoltaïsme était en plein boom en France et que la loi semblait plutôt favorable aux énergéticiens. Voyons maintenant avec vous, Sylvain Lapoix, comment ça se passe sur le terrain, parce que ces projets d'agrivoltaïsme, ils posent des questions très concrètes.
Ah oui, sur les paysages, la faune, la flore. Roselyne Serrieille est agricultrice dans le sud de la Vienne, à Moutère-sur-Blourde. Et depuis un an, les projets agrivoltaïques se multiplient autour de chez elle. Et quand elle a appris que chaque projet serait cerné d'une clôture de 2 mètres de haut, bah ça lui a un peu donné le vertige.
C'est pas possible. On ne peut pas clôturer des hectares à 2 mètres de haut. C'est-à-dire le gibier, tout ce qui est chevreuil, cervidés, sanglés, il n'y a plus accès à ces parcelles-là. Donc ces concentrations sur les autres parcelles, ces concentrations sur les routes, donnent plus d'accidents, plus de problèmes comme ça, quoi. Et au bout d'un moment, cette faune sauvage, elle ne pourra pas vivre. Parce qu'il faut qu'il y ait un mélange, il faut que ça circule, il faut que ces animaux et nous, on va être clôturés, c'est nous qu'on sera parqués entre ces parcs en fait.
Et ces nuisances sur la faune, Régis Ouvrard les observe déjà. Il est administrateur de la Ligue de protection des oiseaux de Poitou-Charentes.
Ben, un oiseau, quand il vole à ras-le-sol face à un panneau photovoltaïque ou ce qui reflète le ciel, il peut rentrer en contact avec le panneau et le heurter. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent être assez facilement évitables en mettant des films qui réduisent l'effet miroir sur le panneau. Et puis, on a des phénomènes également d'insectes qui viennent pondre sur les surfaces vitrées, croyant y trouver une mare, par exemple.
Et encore plus préoccupant, la Ligue de protection des oiseaux ajoute que le changement de température et d'ombre sous les panneaux solaires pourrait perturber la faune et la flore.
Et face à toutes ces inquiétudes, hein, que ce soit l'impact sur l'environnement ou le risque d'une marge pas vraiment satisfaisante pour les agriculteurs qui installent des panneaux solaires, il y a de plus en plus de territoires qui, tout en respectant la loi, mettent leurs conditions.
Oui, par exemple la région Normandie. Son président, Hervé Morin, a mis en place des règles spécifiques avec la Chambre d'agriculture.
On veut des petits projets, parce qu'au moins que ça ne soit pas capté que par une ou deux exploitations. Si vous avez des très grands projets, on va très vite arriver aux volumes qui sont imposés par le gouvernement, par région, sur l'énergie produite par tel ou tel mode. Et donc, clairement, ce que nous voulons, c'est que si ça doit être un revenu accessoire d'exploitation agricole, il faut que ça puisse profiter au plus grand nombre.
Et que ça profite au plus grand nombre, dit Hervé Morin, est-ce que ça veut dire que c'est pas forcément le cas jusqu'à présent ?
Oui, ce qui ressemble sur le papier à une rente agrivoltaïque, on voit déjà qu'elle oblige à certaines adaptations. Parce que, comme on l'a vu, ajouter des panneaux sur des cultures ou un élevage, c'est un modèle fragile. Vous vous souvenez de Benoît Deschamps,
oui,
l'agriculteur qui va installer 55 hectares de panneaux à Adrié, dans le sud de la Vienne ? Eh bien, il produit des céréales et élève des moutons. Jusque-là, il cultivait des céréales sur les terres où il va poser les panneaux solaires. Et pour ne pas risquer de perdre une partie de ses revenus, il préfère modifier le fonctionnement de sa ferme.
La transformation ferait qu'on supprimerait une partie des céréales pour agrandir en fait le troupeau d'élevage. Je passerais de 235 à 500 brebis sur Adrié. Ce seraient ces brebis-là qui prendraient plus ou moins la place des céréales anciennement. En fait, ça transformerait la ferme principalement en une ferme d'élevage.
Donc ce qu'on comprend, c'est que ces projets photovoltaïques pourraient peser, changer le mode de fonctionnement de ces fermes. Mais il y a aussi un autre phénomène que vous avez constaté, Marjolaine Cor.
Oui, c'est le fait que les énergéticiens ne se contentent finalement pas de proposer un bail aux agriculteurs. Ils peuvent parfois investir dans des propriétés. C'est en tout cas ce que constate Nicolas Fortin, secrétaire national de la Confédération Paysanne.
Nous, on pensait vraiment que c'était pour l'instant des projets portés par les agriculteurs qui allaient voir le jour. Mais là, on voit déjà les effets complètement pervers du modèle, puisque là, ce sont bien des investisseurs qui viennent ici pour acheter une ferme dans l'optique, en fait, de la valoriser pour faire de l'agrivoltaïsme. Donc là, ils participent bien sûr à la surenchère sur les terres. Hein. Et donc là, on instaure une concurrence complètement déloyale entre la production agricole, qui est pour nous essentielle, la production alimentaire, et la production énergétique.
Alors, une surenchère sur les terres et une concurrence déloyale, il faut expliquer.
Eh bien, pour rester sur l'exemple du sud de la Vienne, les énergéticiens sont prêts à mettre 8000 euros de l'hectare pour acquérir une ferme, alors que le prix moyen de l'hectare dans ce territoire est plutôt de 3000 euros. Et pour les agriculteurs qui veulent s'installer, eh bien, c'est impossible de s'aligner.
Et puis, il y a un autre risque que vous avez identifié.
Oui, c'est celui de voir des agriculteurs à l'âge de partir en retraite choisir de conserver leur exploitation pour garder leurs revenus issus des panneaux photovoltaïques et du coup empêcher l'installation de nouveaux agriculteurs. Gisèle Jean est maire du village de Caux dans la Vienne. Elle a recensé près de 5000 hectares de projets agrivoltaïques en attente de validation par sa communauté de communes et dans beaucoup de ces projets, elle retrouve un profil bien particulier.
Dans les profils que nous avons aujourd'hui, nous avons un certain type d'agriculteur qui va être à la retraite et qui s'inquiète parce que les retraites des agriculteurs sont quand même relativement faibles, voire pour certains très faibles. Donc là, on a une opportunité, c'est-à-dire qu'à la fois, on a des personnes qui font pression, les entrepreneurs, on va dire, d'énergie, et de l'autre côté, on a des gens qui s'inquiètent pour leur avenir. Et quand on croise les deux, on s'aperçoit qu'il y a, il y a un potentiel qui favorise l'agrivoltaïque.
Alors, on va bientôt conclure, mais ces projets agrivoltaïques par rapport à ce qui était annoncé pour les agriculteurs, est-ce que finalement, c'est une si bonne affaire que ça ?
On a vu qu'au départ, les énergéticiens ont fait miroiter des chiffres mirobolants. Ils ont laissé entendre aux agriculteurs qu'ils pourraient toucher jusqu'à 5 000, 8 000 euros par hectare et par an. Mais dans les faits, selon Olivier Daugé de la FNSEA, les vrais revenus seraient bien inférieurs à cela.
Ce qui va être partageable, c'est autour de 2 000 euros par an, par hectare. Le partage, il se fait avec le fermier et souvent, il y a un propriétaire. Donc l'idée, c'est, voilà, c'est un partage, c'est 50-50, 60-40. Encore une fois, on est sur des contrats privés, donc ce qui fait à peu près autour de 1 000 euros chacun par hectare et par an venant de la partie électrique.
Donc si on prend par exemple une exploitation avec 10 hectares de panneaux solaires, ça ferait 10 000 euros annuels de revenus pour l'agriculteur, ce qui reste malgré tout un appoint intéressant, hein, en parallèle des revenus agricoles qui, on le sait, peuvent fluctuer et être parfois très maigres. Maintenant, on sait aussi que derrière la prolifération des projets, seule une toute petite partie d'entre eux verra vraiment le jour. Il risque d'y avoir une grosse frustration chez ceux qui ont monté des projets qui n'aboutiront pas.
Et on connaît la situation explosive en ce moment dans le monde agricole. Et est-ce qu'il n'y a pas tout de même un moyen de rendre ce système un peu plus équitable ?
Justement, pour répondre à ça, deux députés ont mis en place un groupe transpartisan à l'Assemblée nationale, le socialiste Dominique Potier et le député Renaissance Pascal Lecamp. Ce dernier explique leur idée, affecter une partie des revenus à tous les agriculteurs d'un territoire.
Une partie des sommes dégagées n'irait pas qu'à l'agriculteur, à l'énergéticien et au propriétaire. Le surplus dégagé, pour éviter des rentes excessives, serait réinjecté de manière collective dans l'agriculture locale. Et ce qui fait que ça aurait aussi une autre vertu, c'est de limiter l'inflation foncière qu'on pourrait voir naître.
Et cette idée, elle est déjà appliquée dans certains départements comme la Gironde et la Corrèze, où des groupements fonciers sont créés pour répartir les revenus générés par l'activité agrivoltaïque.
Merci Marjolaine Corr et Sylvain Lapoix pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et avec également une vidéo pour tout comprendre. Mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, on va continuer d'explorer les coulisses de la politique agricole française et avec une enquête en bande dessinée, on va comprendre comment on en est arrivé là.
Say no, be good, 'cause you're good, I'm good, we're good, so good.
joke smile, trying to braid your hair. And why can't you just hold me in your arms and stay right there? Stay right there, right there. Come on and sing me a love, sing me a love. Come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Come on and sing me a love, sing me a love. Come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. I want my own love song. Come on, give me a love song. I go cover bruises. I want to draw a line, but you promise we'll be fine. I am yours, you are mine, and there be no next time. Until the next time, tell me why can't we just focus on the good things that we share? Like you telling me jokes while I'm trying to braid your hair. And why can't you just hold me in your arms and stay right there? Stay right there, right there. Sing me a love, sing me a love. Come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Come on and sing me a love, sing me a love. Come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song.
Pourquoi ne pas me prendre dans tes bras et rester là? Quoi de mieux qu'une love song signée Ayo pour bien commencer l'année, extrait de son 7e album Mami Wata.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Et nous recevons à présent la journaliste Inès Leroux après l'énorme succès de votre enquête en bande dessinée Algue Verte, l'histoire interdite. Vous publiez une nouvelle enquête avec le même dessinateur Pierre Vanov, une enquête consacrée cette fois à l'histoire enfouie du remembrement. Le livre s'appelle « Champ de bataille » aux éditions La Revue Dessinée Delcourt. Alors, le remembrement, c'est cette politique qui a consisté, après la Deuxième Guerre mondiale, à regrouper les petites parcelles agricoles au nom du progrès et de la modernité. L'objectif, c'était d'avoir des fermes plus grosses et de produire plus. Et ce qui saute d'abord aux yeux, quand on vous lit Inès Leroux, c'est la violence avec laquelle ce remembrement a été imposé, finalement, aux agriculteurs.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai découvert en allant dans les villages et en recueillant des témoignages et puis aussi en allant dans les archives départementales. Parce que ce qui est impressionnant dans les archives, c'est que les cartons du remembrement regorgent en fait de recours en justice des habitants qui se sentaient lésés par le remembrement. Et on peut vraiment dire qu'il a été mené en fait avec un déni de démocratie, quoi. C'était vraiment un remembrement autoritaire qui s'appuyait sur une loi de Vichy et qui indiquait que si une poignée d'agriculteurs dans une commune voulait le remembrement, eh bien, il était imposé à tout le monde. Et parfois, face aux résistances paysannes, il a même été mené avec les forces de l'ordre.
Oui, on n'hésite pas à envoyer la gendarmerie. Hein. En un moment, on voit en 1953, à Fégréac, dans l'ouest de la France, on envoie les gendarmes.
Voilà, on envoie les gendarmes, on envoie les CRS, et les agriculteurs sont gazés, peuvent être tabassés. Enfin, c'est vraiment une opération de modernisation agricole à marche forcée de la France.
Alors, vous l'avez évoqué à l'instant en quelques mots, mais ce qu'on découvre aussi, ce sont les origines de tout ça. Ça remonte au régime de Vichy.
Effectivement, le remembrement est pensé depuis la fin du 19e siècle par le corps du génie rural en France. Et finalement, il va vraiment aboutir à travers une loi en 1941, une loi pétainiste, et c'est assez surprenant de découvrir ça, que c'est un régime qui va mettre en place beaucoup de lois qui vont servir après-guerre à la modernisation agricole de la France et au fait de rendre beaucoup plus compétitives les campagnes françaises.
Oui, parce que ce remembrement, il va de pair avec une mécanisation de l'agriculture, le développement des tracteurs, mais aussi des engrais chimiques.
C'est ça. C'est vraiment ce qui va permettre l'installation de l'agriculture intensive en France, en fait. L'idée derrière tout ça, c'est de détruire l'économie paysanne et de la faire entrer dans l'économie capitaliste. Le projet est que l'agriculture participe à l'expansion industrielle de la France et qu'elle consomme des produits industriels, des tracteurs, des produits chimiques, et puis aussi qu'on diminue fortement le nombre d'agriculteurs sur le territoire français pour que ceux qui partent puissent servir de main-d'œuvre sur les chaînes des usines qui se développent.
Alors, ce qu'on comprend aussi à travers votre enquête, c'est que ce remembrement, il n'a pas seulement un impact sur le paysage, mais aussi sur les relations humaines entre les gens.
Oui, en fait, je me suis installée en Centre-Bretagne en 2015 pour enquêter sur l'agriculture. Et dans le village où j'habitais, puis dans les villages alentours, on me parlait vraiment des traumatismes du remembrement, du fait que des habitants ne se parlaient plus. Et en fait, en cherchant de la documentation sur ce sujet, j'ai découvert que finalement, aucun travail de recherche n'avait été mené sur les violences sociales du remembrement. Le remembrement avait toujours été abordé jusque-là comme une pure opération foncière, technique, qui avait permis de désenclaver les campagnes, d'apporter la nécessaire modernité dans les zones rurales.
Et il y a une femme qui vous dit, en parlant du remembrement justement, c'était un démembrement, le chaos, et il y en a d'autres qui utilisent le mot de guerre.
C'est une Bretonne qui dit ça, hein, qui parle de démembrement. Et il faut comprendre, en Bretagne, ça s'est passé partout pareil, mais en Bretagne, c'est encore plus accentué. On était encore dans une société très paysanne. Et en quelques décennies, cette région va devenir une des premières régions agroalimentaires du monde. C'est plus qu'un aménagement foncier, c'est vraiment un mode de vie et une civilisation paysanne qui va être entièrement liquidée et qui va être complètement réorganisée, beaucoup plus sous emprise de pouvoir économique et administratif. Dans la société paysanne, l'environnement, les écosystèmes étaient quand même un prolongement des corps des gens, et ce grand bouleversement du paysage, ça va être plus qu'un bouleversement, ça va vraiment créer des formes de blessures très fortes chez certains habitants qui parlent souvent en effet de démembrement.
Et du coup, c'est difficile d'en parler pour certains, hein, et il y a même quelqu'un que vous rencontrez dans le Côte d'Armor qui vous dit c'est explosif, c'est comme si vous étiez en Corse. Le sujet reste visiblement sensible. Ceux qui parlent de guerre, c'est un peu comme des traumatisés de guerre aussi, parfois.
Mais c'est vrai que souvent, les habitants font la comparaison avec la guerre d'Algérie, qui avait lieu à peu près à la même période. Et en effet, on retrouve ces symptômes des gens qui ont participé à des guerres, c'est-à-dire le mutisme, la difficulté de parler de ce sujet. Et en fait, c'était un des principaux problèmes pour mener cette enquête, c'était d'avoir accès à la parole des gens. Et la plupart du temps, ils me disaient, on veut pas en parler parce qu'on veut pas remuer, en fait, tout ça, on veut plus avoir de problèmes avec les voisins, on veut pas repenser à ça.
Et le résultat, c'est que des centaines de milliers d'exploitations agricoles disparaissent. Vous écrivez que c'est le plus grand plan social qu'a connu la France.
Ouais, en fait, c'est très impressionnant puisqu'on a 7 millions d'agriculteurs au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on en a 400 000 et bientôt, d'ici 10 ans, on n'en aura plus que 200 000. Donc c'était un bassin d'emploi énorme, et au-delà de ça, en fait, les paysans structuraient vraiment la vie sociale des villages. Et on voit que avec la disparition de ce monde, c'est aussi des zones rurales qui se retrouvent complètement sinistrées.
Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? C'est aller tellement loin?
C'est vrai que c'est une destruction terrible, et beaucoup des personnes qui tentent de reconstruire du bocage ou de reméandrer les rivières, par exemple, parce que des magnifiques rivières en méandre avaient été rectifiées pour gagner de l'espace cultivable, disent que c'est vraiment compliqué parce que c'est beaucoup plus facile de détruire que de reconstruire, en fait. Mais malgré tout, ce qui serait possible, c'est, et beaucoup d'observateurs et de chercheurs le disent, ça serait d'avoir une politique publique en faveur d'une réinstallation de paysans en France pour lutter aussi contre la crise climatique, parce qu'on sait que la paysannerie qui travaille avec les arbres, en fait, elle est très résiliente par rapport aux questions écologiques. Et donc, une politique publique en faveur de la paysannerie pourrait être à l'origine d'une reforestation, parce que la paysannerie, contrairement au modèle de l'agriculture industrielle, travaille davantage avec les arbres.
Merci Inès Leroux. Je précise que vous étiez en ligne depuis le studio de France Bleu Brésisel à Quimper. Je rappelle le titre de votre livre, Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, avec le dessinateur Pierre Van Hove aux éditions La Revue Dessinée Delcourt. Vous pouvez retrouver la version intégrale de cette interview sur notre site et sur l'appli France Inter. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez également réécouter le reportage d'Inès Leroux, Le Grand Remembrement, diffusé dans l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture en janvier 2023. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique, Sofiane Aktib, Olivier Crépet et Jérôme Bragano. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.